Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons les ouvrir dans l'épître de Jacques. Donc Jacques, chapitre 1, et nous lisons les versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Jacques et Pierre ont vécu des temps ensemble dans l'église de Jérusalem, se connaissaient bien. Donc 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange et de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en reportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » Et un troisième texte dans l'épître aux Romains. Donc là, on revient un petit peu en arrière dans l'épître aux Romains. Romains au chapitre 2. Et nous lirons les versets 5 à 8. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par l'esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Jusqu'ici, les lectures dans la parole de Dieu, et nous reviendrons donc dans l'épître de Jacques tout à l'heure, puisque c'est la série que nous continuons aujourd'hui. Ma prière est donc que le Saint-Esprit, dans sa grâce et sa patience, nous donne la joie de comprendre sa parole aujourd'hui. C'est vraiment ma prière, autant pour le fait de vous la transmettre et que nous puissions la comprendre par sa grâce. Nous avons commencé ensemble l'épître de Jacques, la première lettre écrite du Nouveau Testament. Et la dernière fois, nous avons répondu à la question suivante: pourquoi s'intéresser à l'épître de Jacques? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et l'auteur, les destinataires, les sujets généraux de la lettre nous ont aidés à répondre à cette question. Donc là, je fais référence à ce qu'on a vu la dernière fois. Peut-être que vous vous souvenez que nous nous étions posé plusieurs questions. Plusieurs questions avaient été soulevées durant cette prédication et j'avais dit que nous allions répondre à toutes ces questions dans les prédications sur Jacques. Bon, j'avais par exemple dit « Quelle attitude avoir face à l'épreuve ?» ou encore « Que va produire l'épreuve ?» Qui ne traverse pas d'épreuve? Qui n'a pas de questions concernant la souffrance? Toutes des questions qu'on s'était posées la dernière fois et que, en principe, à la fin de cette matinée, nous pourrons répondre. La question, par contre, de la différence entre l'épreuve et la tentation, certains attendent peut-être cette question et cette réponse entre l'épreuve et la tentation, eh bien, je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Comme ça, vous le savez déjà, vous n'êtes pas déçus. Nous y répondrons lorsque nous parlerons des versets 12 à 18 du chapitre 1 de Jacques. Les épreuves peuvent être vécues dans différents domaines. Jacques cite différents domaines d'épreuves. Il parle de la maladie dans cet épître. Il parle de problèmes financiers. Il parle de persécutions économiques ou sociales. Mais nous pouvons réfléchir à toutes sortes d'épreuves que des personnes de l'Église, même ici, ont vécues ou vivent. Je vais en citer quelques-unes, j'ai pensé à vous. Je me dis, il y a plein d'épreuves en fait qui existent ici. La perte de proches, la perte d'un emploi ou la difficulté d'en trouver un. La pression professionnelle intense, le célibat non choisi ou un mariage éprouvé. L'absence ou la mort d'enfant, l'incompréhension de son entourage, les fausses accusations. Une santé défaillante, des douleurs chroniques ou un diagnostic difficile. La fuite d'un pays en guerre, la difficulté de communiquer dans une autre langue. La solitude, les calomnies d'un monde qui rejette Dieu. Un devoir ou des examens difficiles. Des doutes persistants ou une santé d'indignité profondément ancrée. Sans parler d'accidents qui causent des blessures ou de grandes pertes financières. Et vous comprendrez que je n'ai pas encore épuisé le sujet. Jacques, dans sa lettre, parcourt les sujets par rebond. Il rebondit, Jacques. Et par des liens, même par des jeux de mots. C'est un peu comme ça que ça se passe dans l'épître de Jacques. Si vous étudiez cette épître, puis que vous essayez d'avoir une structure de cette épître, il y a quasiment autant de structures que de commentateurs. Simplement parce que Jacques ne fait pas une thèse, antithèse, synthèse. En fait, il chemine par rebond, si on veut dire, par lien ou même jeu de mots. Dans les quatre premiers versets, on le voit très clairement. Dans le verset 1, par exemple, il parle, on voit ce terme « salut » à la fin. D'ailleurs, ça fait rire parfois certains quand on le lit. Eh bien, en fait, ce terme-là, en fait, est un jeu de mots avec le terme de « joie » qui vient au verset 2. Donc, hop, il pense à ça, à cette joie. Puis dans le verset 2, il parle d'épreuves. Il parle d'épreuves et ça lui fait penser au développement de « qu'est-ce qu'une épreuve » au verset 3. D'ailleurs, ce n'est pas le même terme qui est utilisé dans la langue originale. Et ensuite, au verset 3, il pense à la patience. C'est vrai que l'épreuve amène à la patience. Puis le verset 4, il développe. Mais en fait, la patience, elle produit quelque chose. Et puis là, au verset 4, il se dit « attends, mais c'est vrai que ça amène à être dans une situation où on manque de plus rien. » Puis après, verset 5, il se dit « attends, mais s'il manque quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ?» Enfin, etc. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on discute souvent. En fait, on rebondit. On a un thème, un autre thème, un autre thème. Et donc, le thème de l'épreuve et de la souffrance, on va encore le retrouver ailleurs dans cet épître. Parce que tout à coup, il y a un rebond qui l'y ramène. Donc, on n'y sera pas surpris que ça fonctionne ainsi. Donc, voilà un petit peu la manière de structurer cette lettre qui est comme une discussion, si vous voulez, qui rebondit. Et comme quand on discute, vous pouvez analyser vos discussions après le culte, c'est exactement un peu la même chose. Il y a une chose qui vient, prends ça quelque chose, hop, on va dans ce sujet, qu'on revient, etc. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons voir trois questions qui vont nous accompagner pour traiter le sujet des épreuves que nous voyons donc dans ces versets 2 à 4 de Jacques. Les trois questions que je vous propose sont très simples en fait. Je ne vais pas chercher compliqué, ni du fun, ni quoi que ce soit. Simplement, qui passe par des épreuves? Ce sera la première question que nous allons poser. Deuxièmement, quel est le but des épreuves? Et troisièmement, comment vivre les épreuves, tout simplement. Voilà les trois éléments qui vont nous accompagner donc, dans cette prédication. Mais j'aimerais vous présenter ce texte aussi à l'envers. Commencer à la fin pour revenir au début. Parfois, ça nous aide à mieux comprendre les textes. Vous verrez, vous pouvez essayer de temps en temps. Vous prenez le texte depuis la fin, là on prend depuis le verset 4, puis on revient. Et puis voilà ce que ça donne. Ceux qui ont les petits papiers, c'est la phrase qui est écrite. Pour qu'il ne vous manque rien, que vous soyez parfait et accompli, vous avez besoin de la patience qui accomplisse une œuvre parfaite. Donc là, on commence depuis la fin. Pour qu'il ne vous manque rien, que vous soyez parfait et accompli, vous avez besoin de patience qui accomplisse une œuvre parfaite. Cette patience est produite par la mise à l'épreuve de votre foi. C'est la mise à l'épreuve de notre foi qui produit cette patience. Ce sont les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer qui mettent votre foi à l'épreuve. Et cela doit être considéré comme une joie complète. C'est intéressant, hein? Là on est parti de la finalité pour revenir à ce que l'apôtre dit dès le départ dans son texte. Et voilà pourquoi j'ai intitulé la prédication « Les épreuves, un sujet de joie complète ». C'est Jacques lui-même qui nous donne cette direction. Donc commençons par cette première question, qui passe par des épreuves? Je vais chaque fois lire ces trois versets, c'est tellement court que comme ça on peut les avoir un petit peu en tête. Hein? Chapitre 1, verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Jacques, en fait, est conscient qu'il aborde des sujets qui ne sont ni faciles, ni logiques, ni naturels. C'est pourquoi il commence par quelque chose qui est très marquant ici. Il commence par appeler ceux à qui il écrit « mes frères ». Intéressant, si vous relisez cette épître, je vous encourage d'ailleurs chaque fois à la relire avant qu'on fasse ces séries. Ce n'est pas très long, c'est je crois 15 minutes ou 17 minutes exactement pour tout lire l'épître. Et si vous la relisez, soyez attentif à ce terme frère ou frère bien-aimé. Ça revient plus d'une dizaine de fois dans ce texte. Et ça manifeste en fait que Jacques aime ces personnes. Il veut leur transmettre quelque chose d'important. C'est sa famille. Et c'est vrai que certains sont mal à l'aise dans notre monde actuel par le terme frère. Et il le transforme en l'expression frère et sœur, hein, pour que les femmes se sentent incluses. Moi, je ne suis pas trop de cet avis, en fait. Parce que le terme frère englobe toute personne faisant partie de la fratrie. Et quand le Saint-Esprit, par Paul, veut parler de toute l'humanité, il dit que nous sommes tous descendants d'Adam. Et il ne dit pas d'Adam et d'Ève. Parce que nous sommes tous inclus en Adam. De plus, c'est un peu une boutade ce que je vais dire, mais ça doit quand même faire réfléchir. Ceux qui ajoutent le terme sœur, lorsqu'ils auront accepté dans leur famille spirituelle ceux qui ne se définissent ni en homme et en femme, que vont-ils encore ajouter? En fait, moi, je préfère rester fidèle, aussi fidèle que possible, au terme que l'on trouve dans le texte original où il est dit « mes frères », comprenant très clairement que ce terme est inclusif. De la même manière que nous venons tous d'Adam, Ève d'ailleurs aussi. Voilà, donc fermons cette parenthèse. Comprenant que Jacques régulièrement nomme ses lecteurs frères, ses frères bien-aimés, pour leur indiquer son affection et son désir de leur bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort dans l'épître de Jacques. C'est pour ça qu'on appelle parfois cette épître une épître pastorale. Ça, c'est un des éléments qui le démontre. Ce terme indique également que les croyants à qui il parle font partie de la famille de Dieu, des personnes régénérées, adoptées par Dieu. Cela signifie que la théologie qui dit que le chrétien n'a pas d'épreuve parce qu'il est vainqueur sur toute chose, qu'il suffit de vouloir des choses pour les avoir et que Dieu bénit par une vie sans maladie et dans une grande capacité financière, en fait, cette théologie doit faire face à ce que dit Jacques ici. Il indique clairement que des personnes de sa famille spirituelle en Christ vont devoir traverser des épreuves. Il est vrai que la traduction Louis II 1910, même s'il a été révisé avec la Colombe, la nouvelle révision de Genève, donc NEG, la nouvelle Bible seconde et enfin la seconde 21, a gardé l'expression « les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer ». En fait, c'est un peu malheureux. Il aurait mieux voulu mettre ici « que vous allez rencontrer ». Parce que dans le texte original, il n'y a pas de « si ». Si jamais cela devait vous arriver de rencontrer des épreuves. Non, il y a un quand. Quand vous rencontrerez des épreuves. C'est possible que ça arrive. Ça va arriver. Et d'ailleurs, le terme qui est utilisé, c'est plutôt un terme qui explique quand vous y tomberez dans l'épreuve. Il n'y a donc pas de possibilité d'éviter. C'est juste de la rencontrer et puis, ah ben non, je ne veux pas la rencontrer. Non, c'est comme si on tombe dedans. Tu ne peux pas faire autrement. Je vous lis peut-être la version Martin, par exemple, qui est un peu plus littérale, comme la Louis II, qui dit ceci. « Mes frères, donc c'est le verset 2, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous serez exposés à diverses épreuves. » Ou bien même la Semeur, qui est plutôt dynamique, mais qui est ici plus proche du texte, qui dit ceci. « Mes frères, quand vous passerez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Tout cela signifie que la réponse à la question « qui passe par des épreuves ?» est tout simplement « tout le monde ». Qui passe par des épreuves ? Tout le monde. Donc Jacques n'est pas en train de parler d'une possibilité, d'une option parmi d'autres, d'une éventualité. Non, il parle d'une réalité que chacun va rencontrer. Il ne laisse aucune illusion. Et il est important que chacun de nous ne se fasse pas d'illusions. Chacun va encore passer par des épreuves. Ne soyons pas surpris, mais apprenons à y faire face. Jésus a averti ses disciples que tous auront des épreuves. Et lui-même a vécu des épreuves. Nous le savons, dans ce monde déchu, tout apprentissage passe par des erreurs que nous allons ensuite corriger. Lorsqu'un petit enfant apprend à marcher, on pourrait dire son épreuve, ça sera la chute. Il tombe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se relève et chaque fois, il cherchera à mieux trouver son équilibre. Ou lorsque quelqu'un apprend à écrire une langue, il fera des erreurs. Et son épreuve sera de constater tout ce rouge, enfin des fois plus ou moins, qui remplit sa feuille corrigée et il va s'exercer à ne plus faire les mêmes erreurs. En fait, je ne connais pas d'apprentissage d'un domaine où il n'y a pas l'épreuve de l'erreur. Cela illustre en fait une partie de ce qu'est l'épreuve. Ce n'est pas tout ce qui concernait, mais une partie, et qui permet de comprendre, je l'espère, que l'épreuve est inéluctable, qu'elle va arriver et qu'elle peut être utile pour progresser. Donc si nous voulons appliquer cela à notre vie, cette semaine, la semaine qui vient, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous savons que nous allons faire face à des épreuves. Nous ne devons pas être surpris. Nous ne devons pas nous voiler la face ou mettre nos têtes dans le sable comme une autruche en pensant que si nous ne les regardons pas, l'épreuve disparaît. Non. Ce qui peut justement nous aider, c'est de réfléchir au but de l'épreuve. Et Jacques va justement nous pousser à le faire. C'est le deuxième point. Quel est le but des épreuves ? Relisons Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pourrez rencontrer. » Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Alors, un premier élément que j'aimerais souligner, deux ou trois fois, que ça soit clair pour chacun de nous, hein, l'épreuve n'est jamais un but en soi. L'épreuve n'est pas un but en soi. Dans le sens qu'on ne va pas chercher l'épreuve, ce n'est pas ça qui dit « Ouais, on y est arrivé, j'ai une épreuve, j'y suis arrivé. » Non, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et j'aimerais directement tordre le cou aussi à une fausse croyance, même si elle n'est actuellement pas très répandue dans nos contextes, enfin du moins pas sous sa forme la plus dramatique, c'est la croyance qu'il faut chercher l'épreuve. Ce qui a poussé d'ailleurs bien des croyants dans les premiers siècles à carrément chercher le martyre, qui était le moyen ultime pour être proche de Dieu, ou l'ascétisme pour être plus proche de Dieu. Non, l'épreuve n'est pas un but en soi. C'est un moyen que Dieu peut utiliser. Nous n'avons pas à chercher l'épreuve. Nous avons en fait à y faire face et réfléchir au but de l'épreuve pour nous y aider. Le texte de Jacques est clair, l'épreuve produit quelque chose. Qu'est-ce que l'épreuve produit ? Verset 3, elle produit la patience. La patience. Enfin, aussi traduit par persévérance, endurance ou résistance. Qu'on ait un petit peu plus le champ sémantique de ce mot hein, qui est ici. Donc la patience aussi traduit par persévérance, endurance ou résistance. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce qui caractérise une personne qui ne dévie pas de son but et de sa loyauté à la foi et à la piété, malgré les plus grandes épreuves qu'il peut rencontrer. Daniel a continué à prier alors que la fosse au lion l'attendait. Ses trois amis ont continué à rester debout devant la statue alors que la fournaise les attendait. Job continue à faire confiance à Dieu malgré toutes ses pertes et sa maladie. Joseph continue à bien faire son travail même lorsqu'il est traité injustement. Et pourquoi pas à midi au repas, de dire, oh, on va chercher encore quelques exemples dans la Bible, hein, de ce qui s'est passé, ou même dans l'histoire de l'Église. L'épreuve qu'ils traversaient, en fait, les rapprochait de leur Dieu, à qui ils s'attendaient avec patience. Sachant, en fait, que Dieu allait prendre soin d'eux, même s'il ne les délivrait pas de l'épreuve du moment. Ça, c'est très fort avec les amis de Daniel. Hein. Ils disent à Nebuchadnezzar, notre Dieu va nous protéger, et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer cette idole. Parce qu'en fait, ils avaient une confiance que Dieu allait prendre soin d'eux, et ils savaient que leur vie ne s'arrêtait pas avec la mort, la mort de leur corps, et qu'ils entreraient ainsi dans le royaume qu'ils attendaient patiemment. Celui qui s'est une fois cassé un membre, sait que ça vaut la peine d'avoir de la patience, d'attendre que le membre soit réparé avant de l'utiliser à nouveau à son plein potentiel. Parce que lorsqu'il ne le fait pas, ben ça ne fonctionne plus exactement comme avant, beaucoup plus difficilement. Donc ça, c'est des éléments qui apprennent, les épreuves apprennent cette patience. La mise à l'épreuve contient l'idée, ici au verset 3, d'éprouver. Non pas comme un examen à l'école, mais comme de l'or que l'on passe au creuset pour enlever les scories. Ça, c'est le terme qu'on a dans le verset 3 ici. Donc la mise à l'épreuve contient l'idée d'éprouver, pas comme un examen, mais comme de l'or que l'on passe au creuset pour enlever les scories. Le tout est chauffé afin que l'or va fondre en fait et toutes les scories vont brûler. Et l'or deviendra plus propre et ayant plus de valeur. En fait, 1 Pierre 1, verset 7, est le seul autre passage dans la Bible, enfin dans le Nouveau Testament, pour dire dans la Bible, qui utilise le même terme que ici, que cette épreuve au verset 3 de Jacques, hein, qui dit ceci, donc 1 Pierre 1, 7, « Afin que votre foi soit éprouvée, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouvant être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Christ. » Et les deux autres fois où on trouve ce terme dans la version grecque de l'Ancien Testament, donc la Septante, c'est aussi en lien avec cet or qui est éprouvé. Donc la notion est très claire ici. Et ce texte nous dit aussi quelque chose d'important, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, c'est notre foi qui est éprouvée. En fait, c'est toujours le cas. Dans toutes les épreuves. Quand on commence à réfléchir, c'est toujours notre épreuve, notre foi, pardon, qui est éprouvée. Si nous revenons sur quelques épreuves que j'ai mentionnées, nous verrons que nous revenons toujours à la foi. La perte d'un proche, croyons-nous dans la promesse de la consolation de Christ? C'est la foi qui est éprouvée là. Ou la perte d'un emploi, croyons-nous que Dieu prend soin bien plus encore de nous que tous les oiseaux qu'il nourrit. C'est de nous la foi qui est à la base. Ou le célibat non choisi, croyons-nous que nous avons toutes en Christ, même une relation intime totalement satisfaisante, une identité sans aucun manque. Ou une personne difficile, un voisin difficile, un collègue difficile, ou un membre de famille difficile, croyons-nous que l'évangile peut le ou la transformer? Croyons-nous que Dieu peut agir dans cette personne? Et quoi que Dieu fasse pour cette personne, est-ce que nous croyons qu'il peut nous donner la force de réagir avec amour et bienveillance? En fait, notre foi est toujours le moteur de notre action. Notre foi est le moteur de notre... Ce que nous croyons va nous pousser à faire des actions. C'est pour cela que Jacques et Pierre disent que lors des épreuves, c'est notre foi qui est éprouvée. Et cette foi éprouvée produit la patience. Et la patience, comme l'épreuve, n'est pas un but en soi. De nouveau, faire attention. Dire, ah mais non, la patience, c'est bon, la patience, j'ai réussi. Non, c'est de nouveau un moyen en fait. La patience est un moyen que Dieu utilise pour accomplir une œuvre parfaite. Ce n'est pas une patience passive. C'est vrai que dans notre société, quand on parle de patience, c'est un petit peu, bon, t'attends, tu te laisses marcher dessus, puis tu attends que ça passe quoi. Ce n'est pas de cette patience-là qu'il s'agit. Il s'agit d'une patience persévérante, endurante, résistante, militante, en fait une attente engagée, pourrait-on dire. Et qu'est-ce que cette patience produit? J'aimerais juste qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce que la patience produit. Vous connaissez la patience ou bien? Si jamais penser à des personnes patientes. Puis, mais qu'est-ce que ça produit la patience? Je vais vous présenter 10 bienfaits de la patience. Mais il y en a plus, hein. Donc vous pourrez continuer la liste. Le premier, c'est que la patience produit un esprit paisible. Quelqu'un qui est patient est paisible en lui-même. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les éléments bibliques, etc., à cause du temps, hein, mais je vais quand même vous parler de ces différents éléments. Deuxièmement, la patience nous place dans une disponibilité bienveillante vis-à-vis des autres. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est patient envers vous? Généralement, il est bienveillant. Il est prêt, en fait, à vous répondre ou à vous servir. La patience nous place dans une disponibilité bienveillante envers les autres. La patience, ça c'est intéressant, affame la colère, l'irritation et la frustration. Celui qui est patient ne donne pas de nourriture à la colère, à l'irritation et à la frustration, qui n'ayant plus de nourriture ne peuvent plus s'exprimer. La patience manifeste aussi le fruit de l'esprit. Et ça c'est encourageant. Quand on voit qu'on a un tout petit peu plus de patience, bon, la perfection, nous n'y sommes pas encore. Enfin, en tout cas, moi, je vois que j'ai bien du chemin, c'est vrai. Mais quand on voit que Dieu nous a donné quelques éléments de patience supplémentaires, on dit, ah, mais ça fait partie de l'identité qu'il nous donne en Christ. Celui qui est en Christ reçoit, en fait, cette patience qu'il a appelée à, bien sûr, travailler, augmenter. Et comment est-ce qu'on la reçoit? Eh bien, en entrant dans ce chemin de repentance et de foi qui nous libère de notre péché. Voilà, donc la manifestation du fruit de l'esprit. Cinquième élément, la patience rend inébranlable lorsqu'elle se repose sur Dieu. Imaginez quelqu'un qui a une patience infinie. On peut lui faire tout ce qu'on veut. Il sera inébranlable si sa patience se repose sur Dieu. Hein, évidemment, pas sur lui-même. Sixième élément, la patience reflète le caractère de Dieu. Donc lorsque quelqu'un est très patient, quelqu'un peut dire « Mais pourquoi t'es si patient ?» Au lieu de dire « Ah ben parce que je suis tellement bon, quoi. » Non, c'est dommage. C'est justement un bon moment de dire « Ben, en fait, par moi-même, je ne suis pas très patient. D'ailleurs, tu ne vois pas ce qui se passe dans mon cœur quand je suis en train d'attendre là. Hein, mais je cherche, c'est vrai, à grandir et progresser. » Cette patience, je peux la vivre et je cherche à grandir parce que je vais puiser en Dieu, en Jésus-Christ. La patience reflète le caractère de Dieu. Septième élément, la patience nous permet de passer par-dessus beaucoup d'offenses. Vous avez déjà vu, quand vous êtes patient, quelqu'un vous fait du mal, ben, vous n'allez pas lui en vouloir. Vous n'allez pas chercher à... Donc on est capable de passer par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas reprendre quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment mal. Hein. Ça, artisan de paix, je ne vais pas me refaire tout ça. Mais la patience nous permet de passer par-dessus beaucoup d'offenses. Huitième élément, la patience stimule la confiance. Parce qu'en fait, si on est patient, c'est parce qu'on s'appuie sur Dieu. Donc on lui fait confiance. Et parce qu'on lui fait confiance, eh bien on a la patience. Enfin, ça se nourrit l'un l'autre. La patience stimule la confiance stimule la patience. Un autre élément, la patience augmente l'écoute et la réflexion. Vous avez déjà vu, quand quelqu'un vous écoute patiemment, ben vous avez quand même l'impression d'être écouté. Tandis que si vous n'avez pas pu terminer votre phrase, puis que la personne n'attend pas, ben vous n'avez pas l'impression d'être écouté. Mais après, maintenant, celui qui n'attend pas, ben généralement, en fait, il n'entend pas non plus. Celui qui n'attend pas, n'entend pas. Alors qu'en fait, celui qui est patient entend et peut même réfléchir. Et on arrive au dixième, mais je vous ai dit, hein, je n'aurai pas tout épuisé, là aussi, vous pourrez encore le travailler, mais la patience est un ingrédient de l'amour. 1 Corinthiens 13 le souligne très clairement, hein, l'amour est patient. Donc en ayant plus de patience, nous aimons plus. La patience accomplit une œuvre, hein, Jacques le dit. La patience accomplit une œuvre, et cette œuvre, c'est de nous rendre matures. Hein, il y a deux aspects dans cet élément ici, dans Jacques. Un aspect, c'est cette notion de maturité. Et ça, c'est un processus. Et deuxièmement, elle nous fait tendre vers la perfection, que j'appelle la perfection eschatologique. Nous serons un jour parfaits. Et c'est dans cette direction-là que la patience nous pousse, vers cette perfection-là. Et nous avons plusieurs textes dans la Bible qui parlent de ces effets de l'épreuve. Romains 5, par exemple, de 3 à 5, que l'on peut regarder. Donc si vous êtes dans Jacques, vous pouvez aller dans Romains, c'est un peu avant. Et puis on va lire les versets 3 à 5 du chapitre 5. Où il commence par parler du fait qu'on est justifié par la foi. Hein, l'indicatif, qui est le fondement. Notre fondement, c'est notre salut en Jésus-Christ. Et puis ensuite, il continue et il dit au verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes dans les tribulations. » Tribulation et épreuve, c'est similaire. Hein? « Nous glorifions nous-mêmes dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. » On a vu que la patience est en lien avec la persévérance, l'endurance, etc. Donc, produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si on prend un petit peu de recul maintenant, par rapport à ce texte dans Jacques et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous pouvons prendre toute la Bible et nous pouvons observer plusieurs raisons pour lesquelles Dieu permet des épreuves. J'aimerais vous donner un petit échantillon. Là aussi, je ne vais pas tout épuiser, mais ça donne un petit échantillon des raisons pour lesquelles Dieu permet les épreuves. Alors, si on revient dans la Genèse, de nouveau, c'est un peu global, l'épreuve peut éprouver la foi. Ça vous rappelle quelqu'un qui a été éprouvé ? Abraham. En fait, Dieu a éprouvé la foi d'Abraham par une épreuve, qui était une épreuve quand même particulière avec son fils. Et Dieu a éprouvé Israël aussi, ça c'était dans Genèse 22 si jamais, et avec le peuple d'Israël à plusieurs reprises. Je donne juste Exode 16, 4, mais il y a d'autres passages aussi qui nous le mentionnent, où Dieu en fait donnait la manne à son peuple juste chaque jour pour l'éprouver, pour en fait qu'il puisse grandir dans la foi. Deuxièmement, l'épreuve peut révéler la présence ou non de la foi. En fait, la parabole des semences est assez éloquente. Hein. Si on regarde le Luc 8, verset 13, hein, « Ceux qui sont sur le roc, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais qui n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. » C'est l'épreuve qui va en fait déterminer si cette graine a été dans un endroit qui portera du fruit ou non. Troisièmement, et ça juste en passant, c'est quand même un élément qui devrait nous encourager en tant que croyants, c'est que vous avez déjà vécu des épreuves et vous êtes encore dans la foi. Ça, c'est un encouragement. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous garde en fait, hein, et qui montre que c'est une foi qui est réelle. Troisième élément, l'épreuve peut nous libérer de notre amour pour le monde et ce qui nous encourage à aimer. Je pense par exemple aux amis ou à la famille de Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire, hein, dans Acte 5. Donc leur amour de l'argent a fait qu'ils ont été jugés et qu'ils sont morts. Bah, ça a dû motiver quand même pas mal de personnes qui ont été éprouvées par cette situation à s'écarter de l'amour de l'argent. Quatrièmement, l'épreuve nous fait aspirer aux choses éternelles, auxquelles nous pensons beaucoup moins sans épreuve. Je vous assure que ceux qui ont des problèmes de santé ou leur corps commence à craquer difficilement, etc., le texte de 2 Corinthiens 4, 16 à 5, 1 devient tout à coup un compagnon bien-aimé. 2 Corinthiens 4, 16 à 5, 1. Ah, vous ne savez pas ce que c'est ? Bon, ben, vous irez le lire. Et ça deviendra peut-être un compagnon bien-aimé aussi pour vous. Cinquièmement, l'épreuve préserve de l'orgueil et maintient la dépendance à Dieu. Là, on a un témoignage extrêmement clair de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, nous dit ceci. Au verset 7, à cause de l'excellence de ces révélations, donc il avait reçu, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la privation, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'épreuve préserve de l'orgueil, peut préserver de l'orgueil. Je dis peut préserver parce que ce n'est pas un élément magique, c'est un moyen, un outil. Qui peut malheureusement aussi être mal utilisé. Sixième élément, l'épreuve stimule notre ardeur à utiliser les armes de Dieu et développe notre intimité avec Dieu. C'est vrai, j'ai remarqué, et j'aimerais que ça soit encore un peu différent, mais enfin, je suis déjà content que ça arrive quand ça se passe moins bien, mais quand les choses se passent moins bien, je prie plus. Vous avez déjà vu ça ? Quand tout à coup c'est plus difficile, ou bien vous êtes face à des situations plus difficiles, ben c'est à ce moment-là que vous priez plus. Ben c'est bien, continuons, il ne faut pas s'arrêter. Mais qu'on puisse continuer, même dans les temps, c'est peut-être moins difficile. Vous savez, ce n'est pas en temps de paix que l'on reconnaît la valeur d'un soldat. Et septièmement, et je m'arrêterai là, l'épreuve nous permet de mieux aider ceux qui vivent aussi des épreuves. Les épreuves nous permettent de mieux aider ceux qui vivent aussi des épreuves. Pierre a vécu une grande épreuve de la trahison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a trahi Jésus, c'est énorme, c'est une épreuve terrible qu'il a vécue. Et Jésus lui avait déjà dit avant, quand tu seras revenu, fortifie les autres. Jésus savait déjà que cette épreuve serait terrible, mais qu'elle serait utile pour que Pierre puisse fortifier les autres. Donc la question, lorsqu'une épreuve se présente sur le chemin de notre vie, ne devrait plus être « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Parce que ce sont des réponses que nous n'avons généralement pas. Mais plutôt « Pourquoi ?» Séparons. Ou « Comment grandir dans la patience, dans la persévérance ? Comment exercer ma foi ici ?» Comment vivre l'évangile? Comment glorifier Dieu dans cette situation? Et nous avons un modèle fantastique avec Jésus-Christ qui a vécu quand même énormément d'épreuves. Si vous commencez à lire les évangiles en voyant toutes les épreuves que Jésus a vécues, des épreuves de frustration, des épreuves d'opposition, enfin toutes sortes de choses. Et en fait, il les a toujours vécues d'une manière qui glorifiait Dieu et qui nous pousse à le suivre et à chercher en lui la force. Moi, je ne l'ai pas, hein, je vous le dis tout de suite, mais en lui, nous pouvons trouver cette force de vivre ces épreuves dans cette direction. Et cela nous conduit à notre dernier point, qui sera plus court mais qui est important. Comment vivre les épreuves ? Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Or, la clé pour vivre les épreuves comme Jacques nous le propose, vous savez ce que c'est ? C'est la foi. C'est la foi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que par la suite, il va expliquer ce que c'est qu'une foi vivante. Il va expliquer comment on demande la sagesse à Dieu pour vivre cette foi, enfin, etc., etc. Donc, la foi, c'est un sujet qui traverse toute l'épître. La clé n'est pas une résignation. Je me résigne face à l'épreuve. Ou une automotivation à être heureux. C'est bon, je serai content là. Ting ! Face à l'épreuve. C'est la confiance en la promesse de Dieu qui fera atteindre le but qu'il s'est fixé. C'est ça notre encouragement. J'ai la foi que Dieu fera atteindre le but qu'il s'est fixé et que nous avons vu au point précédent, donc aux épreuves que nous vivons. C'est ça en fait qui va nous aider à vivre l'épreuve. Et c'est la manière de vivre. J'ai foi que Dieu va atteindre ce but. Paul, guidé par le Saint-Esprit, le dirait avec d'autres mots dans Colossiens. Colossiens 1:10 nous dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Non seulement Paul, mais Pierre le souligne également dans le texte. On a vu un texte avant qui parlait de la foi qui était éprouvée, hein, dans 1 Pierre 1,7. Eh bien, 1 Pierre 1,6, juste avant, il dit « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, enfin, etc., tout comme l'or soit éprouvée par le feu, etc. » La confiance en Dieu va produire la joie, et nous allons chercher à vivre cette joie, puisqu'en même temps, c'est ce qui est demandé qui devrait accompagner l'épreuve. Alors nous ne nous réjouissons pas pour les souffrances. Ça c'est de nouveau, c'est se tromper en fait de direction. Les difficultés et les épreuves sont des choses difficiles, c'est vrai. Mais nous regardons à la finalité, comme Jésus. Et là il y a un texte qui est absolument marquant quand on commence à comprendre à quel moment ça s'est passé. Jésus, dans Jean 17, fait une prière. On appelle la prière sacerdotale parfois. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette prière. Vous savez quand c'est qu'il a fait cette prière ? C'est le jour où il est délivré. Et donc là où il allait être crucifié, qu'il allait vivre cet horrible temps, etc. Et dans cette prière, en fait, Jésus a pu dire qu'il était dans la joie. Dans la joie. Et qu'il voulait que nous soyons dans cette même joie. Pourquoi ? Parce qu'il voyait au-delà de la souffrance et du moment horrible qu'il allait vivre. Il voyait déjà ceux qui seraient sauvés par cette œuvre. C'est ça qui lui donnait la joie. Ce n'est pas l'épreuve en elle-même qui lui donnait la joie. C'est plutôt ce que cela produirait. Et j'aime bien un commentaire qui dit ceci. Considérez, dans le chapitre 1, verset 2, à mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Considérer est un verbe de réflexion, de pensée et non d'émotion. Jacques n'indique pas comment nous devons nous sentir, mais plutôt comment nous devons réfléchir face aux circonstances. La joie proposée ici n'est pas un sentiment exubérant, un sourire béat ou un rire constant face à l'épreuve. Non, c'est plutôt une réflexion, le choix de penser que Dieu agit pour notre bien. De savoir que la finalité sera bonne même si je ne le vois pas encore. Ça, c'est justement exercer la foi. Je sais que la finalité sera bonne même si je ne la vois pas encore et j'en éprouve déjà de la joie. C'est de cette joie-là qu'il s'agit. Et pas « Youpi, j'ai une épreuve !» Non, je ne suis pas en train de me réjouir de souffrir, non. Et je pense que la Bible ne nous dit nulle part qu'on doit se réjouir de souffrir. Par contre, la Bible nous dit qu'on peut se réjouir même avant que ces épreuves arrivent, parce que nous savons déjà que ça va produire ce que Dieu lui-même veut que ces épreuves produisent. Et il est possible de stimuler cette joie. Et j'ai pu observer quelques moyens utilisés par des personnes de foi qui souffrent. Un élément que j'ai pu observer, c'est la prière pour les autres qui est un puissant outil pour stimuler la joie. Je connais, vous connaissez des personnes qui prient pour les autres et qui leur permet ainsi d'être stimulés dans la joie alors qu'ils sont dans la souffrance. Ou le chant, les cantiques inspirés et inspirants est un outil qui est très utile aussi. Ou la musique. Troisième élément, la contemplation de la création amène souvent à la joie, même dans l'épreuve. Et parfois, si quelqu'un est dans l'épreuve, au lieu de lui raconter plein de choses, allez juste dans la nature, ensemble, au-dessus du brouillard, et de voir le soleil, même dans l'épreuve, ça amène une joie de l'œuvre créatrice de Dieu, par exemple. Ou encore quatrièmement, compter les bienfaits de Dieu stimule la joie. À un moment, des fois, on voit tout en noir, ça arrive, hein. C'est à ce moment-là qu'on doit commencer à se dire maintenant, je veux commencer à réfléchir aux bonnes choses que Dieu a faites déjà, soit dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, et je commence à noter. C'est ainsi que je vais pouvoir stimuler la joie de l'œuvre de Dieu aussi dans les épreuves. Même de penser aux épreuves passées, ce que j'ai pu apprendre. J'ai lu des choses assez impressionnantes où des gens ont vécu des épreuves difficiles et ils disent après, je n'aimerais pas ne pas l'avoir vécu. Je ne sais pas si j'arrive à dire toujours ça. Par contre, j'arrive à dire oui, tout ce que Dieu permet dans ma vie, c'est utile et je m'en réjouis qu'il l'utilise pour me faire grandir. Ça, c'est vrai. Et cinquième élément, la proximité avec Christ nous aide à vivre la joie. Donc, comment est-ce qu'on est proche de Christ? Eh bien, il y a plusieurs manières. En parlant de lui. Vous savez que lorsque vous parlez de Jésus, eh bien, en fait, vous vous approchez de lui. Alors, faites-le ici. Dans le cadre de l'Église, il n'y a personne qui va vous rejeter parce que vous parlez de Jésus. Faites-le déjà dans des lieux où on peut le faire facilement. Parce qu'en le faisant, ça vous rapproche de lui. Le fait de parler avec lui aussi vous rapproche de lui, évidemment. En écoutant parler de lui, ça vous rapproche de lui. Parce qu'il est dit dans Philippiens, réjouissez-vous. D'accord, toujours, ça c'était joli. Mais après, dans le Seigneur. C'est vraiment important, c'est fondamental. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et cela, nous pourrons le faire en toutes circonstances dans le Seigneur. Or, comment vivre l'épreuve? Eh bien, en exerçant la foi, en plaçant notre confiance, nos regards sur Christ, en cherchant des moyens pour nous souvenir et nous rapprocher de Christ, en cherchant aussi l'appui et le soutien de l'Église, le corps de Christ, notre famille spirituelle, elle est aussi là pour ça. Parfois, on n'y arrive plus. Découragé, l'épreuve est parfois très difficile. Et nous allons nous appuyer sur Christ, sachant que lui nous donnera ce dont nous avons besoin. Colossiens, Pierre nous le dit très clairement. Je conclue courtement. Qui passe par des épreuves? Tout le monde, je crois que c'est clair, non? Enfin, je ne vais pas dire lever la main si vous n'avez jamais eu d'épreuve. Puis si vous levez la main, je vous avertis que ça risque d'arriver. Quel est le but des épreuves? Nous faire grandir dans la maturité. Et ultimement arriver à la perfection. Donc ça c'est au niveau eschatologique. Et comment vivre l'épreuve? Et là c'est étonnant, parce que Jacques il parle de joie. C'est pas logique, c'est pas ce qu'on cherche en premier. Mais c'est dans la joie de savoir qu'elle est utile dans la main de Dieu pour nous former à l'image du Christ. Que l'épreuve aura toujours une fin pour les croyants. Ça c'est un élément qui m'encourage tellement moi aussi. celui qui est en Christ, il n'aura jamais une épreuve éternelle qui ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas de souffrance éternelle pour celui qui est en Christ. Une souffrance qui peut durer longtemps, des années, c'est vrai. Mais elles ne sont pas éternelles. Parce qu'au retour de Christ, nous entrerons dans le royaume de Dieu où l'épreuve, dans le sens de la souffrance, n'existera plus. Et c'est par la repentance et la foi que nous entrons déjà dans les arts de ce royaume. Il n'est dit nulle part dans la parole de Dieu, que les épreuves sont quelque chose de facile. Mais Jésus lui-même nous dit qu'il est possible de nous réjouir, d'être dans l'allégresse, car nous voyons au-delà de l'épreuve. En fait, le texte de Jacques s'appuie sur un autre texte de Jésus. Je ne vous l'ai pas encore dit. Eh bien, je vais le lire en conclusion. Parce que c'est le texte sur lequel Jacques s'appuie pour dire ce qu'il dit ici. Et il se trouve dans Matthieu 5, les versets 11 et 12. Ceux qui ont regardé les parallèles entre le sermon sur la montagne et Jacques, ben, voilà, ils le font très rapidement, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Mais je vais vous lire le texte, c'est ce que Jésus dit ici. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Il dit, ce sera dur, mais réjouissez-vous parce que vous regardez au-delà. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes face à ta parole qui touche à des sujets qui sont sensibles. Nous sommes conscients que nous vivons aussi les épreuves tous de manière différente. Nous n'appréhendons pas même exactement les mêmes événements, de la même manière les uns et les autres, parce que tu nous as créés différents. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que ces différences soient plutôt des forces, soient des soutiens, que dans les moments où la différence fait que l'un vit la chose plus facilement, parce que c'est peut-être son caractère ou cette situation qui lui permet, soit un soutien pour celui qui a plus de peine. Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui nous accueille dans notre souffrance, dans nos épreuves. Tu n'es pas un Dieu qui est en train de nous dire, mais serre les dents, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Je reviens dans 3 jours. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que non, tu nous as dit dans ta parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un jour où tu ne seras pas là. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est pour nous aussi un grand soutien dans les épreuves que tu permets. Et tu connais, Seigneur, chaque situation ici, chaque personne. Tu vois que chacun passe en fait par des épreuves plus ou moins grandes, plus ou moins complexes, plus ou moins profondes. Eh bien, Seigneur, que chaque étape que nous vivons, que chaque épreuve qui sont derrière nous, puisse nous aider à voir ton œuvre et nous réjouir de ce que tu vas encore faire dans l'avenir. Donne-nous, Seigneur, de petit à petit avoir de la joie à voir cette œuvre que tu fais dans le cadre des épreuves. Donne-nous, Seigneur, cette force aussi de nous encourager les uns les autres, d'avoir une compassion les uns pour les autres, et d'avoir ce désir, non pas de montrer comme nous sommes capables d'être heureux dans l'épreuve, mais d'avoir ce désir de nous encourager et de simplement parfois être à côté de celui qui a besoin d'être encouragé. Seigneur, merci parce que ta parole est remplie de promesses de ta part, mais aussi surtout, elle nous indique que si tu es venu du ciel sur cette terre pour donner ta vie, c'est pas maintenant que tu vas nous laisser tomber. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.